invités et des analyses.
Accent d'Europe, Catherine Roland.
Ni socialdemokrater, ni moderater och ni svensk media hade fel.
Bonjour à tous, la progression est claire. Depuis quelques années, l'extrême droite gagne du terrain sur le vieux continent quand elle ne gagne pas carrément des élections grâce à des coalitions comme en Autriche ou en Italie. Un autre pays pourrait bien basculer ce week-end, la Suède. Pourtant, sur le papier, le pays va bien, une économie florissante, un taux de chômage à 6,7%. Mais les divisions au sein de la société n'ont jamais été aussi flagrantes au terme d'une campagne dominée par les thèmes de l'immigration, de l'insécurité et des défaillances de l'État-providence. En 2014 et 2015, le petit royaume a reçu 250 000 demandeurs d'asile, un record en Europe proportionnellement à la population du pays. À quelques jours des élections, les démocrates de Suède, un parti aux racines néo-nazies, sont donnés à 20% des intentions de vote. Leur leader, Jimmy Åkesson, est en tournée dans le pays. Reportage à Landskrona, dans le sud du pays, Anne-Françoise Hivert.
Sur la place de la mairie de Landskrona, 30 000 habitants, c'est la foule des grands jours. Plusieurs centaines de personnes sont venues écouter Jimmy Åkesson, le leader des Sverigedemokrater. Les démocrates de Suède est ici en terre conquise. En 2006, quand son parti ne décrochait que 2,9% des voix aux élections législatives, il remportait 22% des votes à Landskrona, une ville alors en crise, désertée par l'industrie et confrontée à l'arrivée de réfugiés, logés dans les appartements laissés vacants par les habitants qui partaient vivre ailleurs. Aujourd'hui, le port a renoué avec la croissance, mais SD y conserve son emprise. Jimmy Åkesson chauffe le public en demandant qui est prêt à faire partir le Premier ministre sortant, Stefan Löfven.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avancer Stefan Löfven?
L'ambiance est tranquille, pas de contre-manifestants, le public s'amuse des blagues du leader, il parle des queues interminables dans les centres de soins, des résultats scolaires en chute libre, de la police qui a perdu le contrôle de certains quartiers dans les grandes villes, l'image d'un pays en pleine déliquescence. Les responsables sont tout trouvés, outre les leaders des partis traditionnels, les réfugiés qui ne veulent pas s'intégrer, selon Åkesson qui énumère.
Il y a ceux qui pensent qu'on peut construire des grandes mosquées avec des minarets et l'appel à la prière. Ceux qui veulent imposer leur culture et la charia aux tribunaux, qui disent que les filles et les garçons ne peuvent pas aller à la piscine ensemble parce que c'est un péché, ou même prendre le même bus. Qu'il ne faut pas servir de porc à l'école parce que c'est terrible et qu'on risque de devenir homosexuel. Ceux-là n'ont rien à faire en Suède.
Le public applaudit dans la foule de quinquagénaires qui d'habitude votent conservateurs, mais cette fois ce sera SD, un parti qui incarne ce qu'elle recherche, dit l'une d'elles.
Il apporte un peu de nouveauté, quelque chose de différent, une autre façon de penser, bref, du changement.
Les deux femmes évoquent l'insécurité, un thème récurrent dans la campagne.
On peut être violé ou poignardé, on n'ose plus sortir seul le soir.
Des sanglots dans la voix, Maria, originaire de Hongrie, raconte qu'elle est arrivée en Suède en 1970 en tant que réfugiée politique, mais elle dit ne plus reconnaître le pays où elle a vécu les 50 dernières années.
Les Suédois qui critiquent l'immigration se font cracher dessus par les mondialistes. Ils se font même cracher dessus par leurs propres politiciens. Quand on voit qu'on a importé tellement de criminalité, tellement de dépendance aux aides sociales, beaucoup d'immigrés ne vont jamais travailler et ils obtiennent une allocation immédiatement. Ils mentent sur leur âge et ils ont des exigences. Ils veulent des produits de luxe, des hommes et des garçons pourri gâtés qui viennent d'Afghanistan et exigent des console de jeu.
Le 9 septembre, Maria va donc voter SD sans hésiter.
Les Suédois doivent se défendre, ils doivent reprendre leur pays. Bientôt, ce sera trop tard. Mon cœur saigne vraiment pour la Suède.
Sur la place de la mairie, Jimmy Åkesson jubile. Si les sondages se confirment, le 9 septembre, son parti décrochera au moins 20% des voix. Ni la droite, ni la gauche ne disposeront de la majorité. Plusieurs alternatives se profilent. Une alliance au-delà des frontières bipartisanes pour isoler SD. La formation d'un gouvernement ultra-minoritaire dont l'existence pourrait être de courte durée ou bien une éventuelle collaboration avec SD. Pour le moment, tous les partis s'y opposent.
Je trouve que c'est tellement irresponsable. On entend depuis 8 ans que c'est nous qui sommes irresponsables, qu'on crée le chaos au Parlement, que c'est à cause de nous que le pays est si difficile à diriger. Pourquoi ? Juste parce que nous existons. Parce que les électeurs ont décidé qu'on doit siéger au Parlement. Mais ce n'est pas de notre faute. On a toujours dit qu'on pouvait parler avec tous les autres partis, négocier avec eux, faire des compromis, collaborer même si c'est nécessaire pour que nos électeurs obtiennent quelque chose en échange.
Le meeting se termine, Jimmy Åkesson est attendu à Malmö. Stefan Olsson, le patron des SD à Landskrona, est satisfait. Aucun contre-manifestant n'est venu perturber l'événement. L'ambiance ces dernières années a changé, dit-il.
Il y a un intérêt nouveau pour Sveriges Demokraterna aujourd'hui. On est mieux accepté. Je pense que c'est le résultat d'un long processus de normalisation.
La Suède a longtemps voulu croire qu'elle pourrait limiter l'avancée de l'extrême droite en la tenant à distance. Le 10 septembre, le réveil risque d'être brutal.
Perché io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Noi vogliamo mangiare le navi della Marina Militare.
En Italie, l'extrême droite, la Ligue, est déjà au pouvoir en coalition avec les populistes du mouvement 5 étoiles. Encouragé par les sondages, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil, a donc les mains libres pour poursuivre sa politique anti-migratoire. Prochaine étape, Tripoli en Libye, où il souhaite se rendre, malgré les combats actuels, afin de sélectionner des ports ou renvoyer les migrants. Une déclaration polémique, comme il en a l'habitude, mais il est toujours aussi soutenu par ses sympathisants. Reportage à Capriata d'Orba, un fief de la Lega, Cécile Debarge.
Moins de 2000 âmes des plaines agricoles à perte de vue, voilà Capriata d'Orba, petite commune du Piémont, dans le nord de l'Italie. Pour les sympathisants de la Lega, c'est jour de fête. Le parti a organisé son grand raout estival avec en invité d'honneur le très polémique ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Autour de lui, tout le monde se presse pour le voir, le toucher, le prendre en photo ou scander son nom. Ce qui le rend si populaire, c'est sa politique brutale sur l'immigration, premier sujet qu'il défend devant les centaines de personnes venues le saluer.
Vous vous souvenez à quoi ressemblaient les journaux télévisés de l'été, ces 4, 5, 6 dernières années ? Des bateaux, et puis encore des bateaux de migrants, et des bateaux encore et toujours. Et puis il y avait les analystes qui disaient « on ne peut rien y faire, c'est un phénomène mondial, et puis il y a le droit international, et puis il y a le droit de la mer et le droit européen ». Je suis fier d'avoir montré que vouloir c'est pouvoir et que je défends le droit des Italiens à être tranquilles chez eux, à défendre le droit des habitants à marcher tranquillement sans être importunés, sans être frappés, sans être violés. Importunati, molestati,
stuprati. Un discours qui revient sur toutes les lèvres lorsque l'on demande aux sympathisants les priorités que doit traiter le gouvernement.
Moi, je dirais immigration, travail et travail.
Matteo Ruggero est le responsable des Giovanni Padani de la province d'Alessandrie, le mouvement des jeunes de la Ligue du Nord.
Aujourd'hui, il faut faire quelque chose de neuf. Réformer cet État en partant de l'immigration. Et c'est ce que nous avons fait avec le décret dignité. Nous avons ainsi traité en priorité ce que les autres n'ont jamais fait.
Comme lui, ils sont nombreux à penser que l'Italie ne se fera respecter au niveau européen qu'en tapant du poing sur la table sur la question de l'immigration. Riccardo Molinari est le chef du groupe parlementaire Lega à la Chambre des députés.
Grâce à son nouveau gouvernement, l'Italie a commencé à adopter des politiques différentes, à fermer ses ports, à tout faire pour qu'on entende sa voix en Europe et pour que les autres pays prennent leurs responsabilités.
Pour les politiques présents, le message est le suivant. Il faut répartir l'effort d'accueil des migrants entre tous les pays européens.
Le simple fait que nous commencions à parler de centres d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire européen, c'est un pas en avant. Maintenant, nous voudrions qu'il y ait des centres d'identification dans les pays de départ pour éviter la traite des êtres humains gérés par les passeurs.
Le maire d'Alessandrie, en préambule de la fête, tient même à montrer patte blanche. La politique de la Lega n'a rien à voir avec de la xénophobie.
Je voudrais en profiter pour remercier, et cela sera peut-être bizarre d'entendre un maire de la Lega remercier des Roumains, mais je voulais remercier les Roumains de Capriata d'Orba qui nous ont vraiment donné un gros coup de main, et cela montre bien que la Lega n'est pas raciste.
Dans le public, la foule l'acclame. Pourtant, en marge d'une interview, une vieille dame résume sans détour ce que beaucoup de sympathisants refusent de dire au micro.
Io la mia età direi, prima di tutto.
Il faut virer les Noirs, crie cette dame. À ses côtés, son ami, plus de 70 ans au compteur, tente de modérer ses propos, son succès.
Disons plutôt, accueillons avec des limites uniquement ceux à qui on peut donner du travail. Si on nous amène des bandits, alors là, ils ne sont pas les bienvenus. On peut même plus sortir de chez nous en laissant la porte ouverte, alors que ça fait 30 ans que je dormais sans fermer à clé.
Là où les politiques défendent le pragmatisme, les sympathisants, eux, sont plus crus dans leurs revendications et pointent du doigt des problèmes de sécurité dans le pays, comme ce maire d'un petit village près de Capriata d'Orba.
Moi-même qui suis maire, eh bien, je dors avec un fusil sous mon lit. Comme ça, si quelqu'un rentre chez moi et fait du mal à ma mère, je peux nous défendre.
Un sentiment d'insécurité que Matteo Salvini promet de résoudre en divisant par deux au moins les sommes allouées à l'accueil des migrants pour assurer la sécurité des Italiens.
Si on parvient à le faire d'ici la fin de l'année, on économisera plus de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros que moi, je veux réinvestir dans la sécurité pour aider la police, les forces de sécurité et les pompiers à faire leur travail avec de meilleurs salaires, avec des moyens plus adaptés. Il y avait ceux qui dépensaient l'argent pour l'accueil des migrants. Moi, je préfère le faire pour la sécurité.
Un discours qui fonctionne auprès des électeurs de la Lega et de manière générale auprès des Italiens. Une étude de l'Institut Cataneo publiée à la fin du mois d'août et intitulée « Immigration, perception et réalité » place l'Italie en tête du classement européen des pays ayant la vision la plus distordue de la réalité concernant le nombre d'étrangers présents dans le pays. 7% des habitants en Italie possèdent un passeport hors UE, mais les Italiens estiment qu'ils sont 25%, soit quasiment 4 fois plus.
Rien de très surprenant aujourd'hui de trouver des vélos en libre service dans les grandes villes européennes. Mais une nouvelle génération venue d'Asie a débarqué à Vienne, notamment en Autriche. Des bicyclettes sans station que l'on peut louer et rendre à n'importe quel endroit. Cela semble très pratique, pourtant ce modèle ne fonctionne pas très bien, Céline Béal.
Ils étaient jaunes et on semblait pouvoir les trouver à chaque coin de rue. Mais les quelques 1500 fringants vélos en libre-service venus d'Asie ont disparu cet été de la capitale autrichienne, presque aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus il y a un an. L'une des entreprises qui les mettait à disposition, O-Bike, est apparemment en faillite à Singapour, sa cité d'origine, et ne donne plus de ses nouvelles. L'autre, Ofo, s'est fendue d'une explication invoquant des régulations municipales trop exigeantes. Pourtant, ce nouveau mode de location avait l'avantage de prendre et laisser les engins n'importe où. Alors que les classiques City Bike proposés par la ville doivent être cherchés et rendus dans des stations prévues à cet effet. On les croyait menacés d'obsolescence, ceux-ci ont finalement résisté à l'invasion des cycles jaunes. Sans doute grâce à un coup de pouce de la mairie qui oblige depuis août les exploitants privés à enregistrer et entretenir leur flotte. Les tarifs ont probablement aussi joué. Les city bikes de la ville ne coûtent en effet rien la première demi-heure. Et puis les médias locaux tentent une explication culturelle. Les Viennois n'auraient pas apprécié le foisonnement incontrôlé des nouveaux venus. Ils monopolisaient souvent les râteliers à vélo, ils gênaient parfois aussi sur les trottoirs et certains se sont même retrouvés au fond du canal. En cette rentrée, l'ordre est revenu dans l'ancienne capitale des Habsbourg. En libre service, on ne voit plus que des vélos gris.
Avec La Valette à Malte, Leeuwarden aux Pays-Bas est cette année capitale européenne de la culture. Et pour l'occasion, des artistes ont décidé de donner un nouveau souffle au paysage singulier de la région, marqué par la longue digue de la mer des Waden, avec d'étonnantes créations, Antoine Moutou.
Elles sont quatre œuvres monumentales qui auraient dû littéralement sortir de terre pour célébrer Leeuwarden, capitale européenne de la culture 2018. Finalement, en raison de quelques problèmes techniques et administratifs, elles ne verront le jour qu'au cours des prochains mois, mais les maquettes et visuels des projets sont d'ores et déjà impressionnants. À commencer par Dijk van den Weyf, la digue de femme, nom d'une immense sculpture d'une centaine de mètres de long et de 20 mètres de hauteur, représentant une femme allongée au bord de l'eau. Recouverte d'herbe, elle doit ne faire qu'une avec une grande digue de mer qu'elle surplombera à Olvert dans la Frise. Cette petite ville portuaire est en fait le point d'entrée des ferries en provenance de l'île d'Ameland. La femme d'Ig doit ainsi souhaiter la bienvenue aux passagers arrivant sur le continent. Toujours à Holvert, Warten op Hoogwater, en attendant la marée haute, deux sculptures de 5 mètres de haut dirigées vers la mer. Si tout va bien, elles seront installées le mois prochain, elles aussi sur la digue d'Holvert. Et puis, pour finir, de Kraumhorn, la corne tordue, une jetée longue de 550 mètres qui part elle aussi de la digue, mais au niveau du village de Virum. Là-bas, certains habitants sont opposés à l'installation, ils craignent que de futurs visiteurs viennent troubler le calme du village. Dans le cas notamment de l'œuvre en attendant la marée haute, une commission spéciale a d'abord dû étudier le dossier, d'où le retard. Certains craignaient en effet que les deux sculptures fassent de l'ombre au clocher du village d'Holvert. Quoi qu'il en soit, sur le long terme, d'ici 2028, au total, 36 grandes sculptures paysagères de ce type doivent être installées le long de la côte frisonne.
Et on salue dans Accent la rentrée de Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, aujourd'hui on va parler du retour de la très rare Anja Garbarek.
Eh oui, la Norvégienne publie ses disques au compte-gouttes depuis 1992 et vient rompre en cette rentrée 13 années de silence avec un album pas comme les autres, The Road is Just a Surface. Pas comme les autres parce qu'il additionne les concepts sur le fond d'abord avec des chansons qui ont pour fil conducteur un personnage en proie à des troubles psychiatriques et puis sur la forme puisque la Norvégienne publie deux versions de son cinquième album, la version dite rouge où les morceaux sont enchaînés et fondus dans un maelstrom sonore étonnant et la version dite jaune où sont plus nettement découpées 10 chansons dans un ordre légèrement différent où brille toujours sa voix et ses arrangements très sophistiqués.
Anja Garbarek, la fille du jazzman Jan Garbarek et son nouvel album The Road is Just a Surface. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation pour cette reprise, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur RFI.fr et sur notre page Facebook.